Alors bonjour, alors on a le...
Bonjour, on s'est déjà dit bonjour.
On a le plaisir d'accueillir pour ActuSF donc les auteurs de Donjon, notamment des deux derniers tomes de Donjon Crépuscule. Donc les tomes 110 et 111. Donc avec nous aujourd'hui, Johan Sfar, Lewis Trondheim, Alfred et Mazan. Bonjour à tous.
Bonjour tout seul.
Alors, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet sur les deux tomes en particulier, est-ce que vous pouvez un peu retracer un peu rapidement vos parcours respectifs et comment vous en êtes venu à Donjon ?
Ah ben, mon parcours, c'est simple. Moi, je suis venu de chez moi, j'ai pris le train pendant à peu près 3h20 jusqu'à Paris. Après, j'ai pris le métro et je suis arrivé. Après, je suis sorti du métro, je suis venu à pied ici. C'est mon parcours.
Mais t'es venu, ouais.
Et toi, Joanne, t'habites à Paris, donc parcours était moins long.
Moi, ça s'est passé un peu différemment. Moi, j'ai découvert Bilbo le Hobbit à l'école, au collège, au début du collège. Après, j'ai voulu lire Le Seigneur des Anneaux, mais malheureusement, Louis-Pierre Anthony les louait avant moi au CDI. Il fallait à chaque fois que j'attende qu'il les ait finis pour les attendre. Il lisait lentement comme un cochon. J'ai mis des mois avant Le Seigneur des Anneaux. Et après, je me suis mis à lire tout ce que je trouvais d'Heroic Fantasy. Et après, pendant que Lewis lisait des Mickey Parade dans son enfance, moi, je faisais des jeux de rôle de Donjons et Dragons. On a grandi. Et on a trouvé que ça nous manquait, Donjons et Dragons d'un côté, Mickey Parade de l'autre, et on s'est réunis et on a dit mais si on prolongeait ce plaisir d'enfance, de l'Heroic Fantasy, de la bande dessinée animalière, et on a inventé le chat du rabbin. Pas du tout, Donjons. Et depuis 15 ans, cette aventure nous a poursuivis, et en fait, on n'en revient pas d'avoir fait 36 albums, parce que ça n'a jamais été le projet, donc c'est un peu semblant de faire un projet immense et tout, on pensait pas que ça deviendrait tout ça. Moi j'ai toujours été fasciné par le travail de Lewis et parmi toutes les choses qu'il faisait dans l'atelier où on était ensemble au tout début de notre carrière, il y avait une trentaine de pages d'Heroic Fantasy qu'il avait faites et ça me plaisait trop, c'était des canards dans un monde avec des magiciens, des machins, et je lui ai proposé qu'on en fasse, enfin bon, il a fini par accepter qu'on revienne là-dessus, voilà.
C'est à peu près ça. Mais s'il faut savoir, par exemple, l'Heroic Fantasy, quand Tolkien faisait Le Seigneur des Anneaux, ça s'appelait pas l'Heroic Fantasy.
Absolument pas.
Ce terme-là est arrivé beaucoup plus tard.
Bah oui. C'est arrivé quand c'est devenu pas bien.
C'est pas bête.
Ben oui. Ça, lui c'était de la fantaisie en fait, simplement.
Ben lui c'était, il voulait faire renaître le folklore légendaire européen, c'était beaucoup plus sérieux que ça, et il pensait qu'on perdait notre folklore et qu'il fallait le recréer, qu'il y avait une... Il avait été marqué par la Première Guerre mondiale et il voulait raconter que la campagne anglaise pouvait sauver le monde de la modernité et de la dégénérescence, donc il a fait ça. Et... C'est intéressant d'utiliser ces univers-là pour raconter des préoccupations d'aujourd'hui. D'ailleurs, un des lieux d'incompréhension sur Donjon, c'est que les gens pensent qu'on fait une parodie, alors que c'est pas le cas. Il y a du rire, comme dit Lewis, il y a de la tragicomédie, mais tout ce qu'on raconte, on y croit. On a inventé un univers qui est sans doute bizarre, il y a des canards, des machins et tout, mais ils vivent des vrais trucs, et des fois ils sont tristes, des fois ils sont amoureux, des fois c'est presque plus comme dans la vraie vie que dans beaucoup de récits d'Heroic Fantasy, où les nanas ont des strings en laiton et se jettent contre des dragons.
Oui, mais ce qui est intéressant aussi, peut-être à noter dans Donjon, qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une série complètement à l'envers, par rapport à une vraie chronologie qui se passera dans un monde qui évolue. On commence à la Renaissance avec Autron Minet, on continue au Moyen-Âge avec Zénith, et Crépuscule c'est un peu les temps barbares. C'est comme si c'est une espèce de série ultra pessimiste, défaitiste par rapport à l'humanité.
Un peu pessimiste.
T'avais pas pensé à ça, Alfred ?
Non, je l'avais pas vu comme ça.
Ah non, alors là, bravo. Hein.
Moi, j'avais pas pensé.
Faut que je les relise même.
J'y avais pas pensé du tout. Je sais pas si j'aurais accepté.
Et du coup, par rapport à le fait que vous n'y aviez pas pensé, est-ce que les séries ne vous échappent pas un petit peu parfois ?
Elles nous échappent depuis le début.
Depuis le début, il n'y a aucun problème.
Ouais. Complètement. C'est parce que nous, on a toujours tout inventé de manière empirique. Quand des gens ont compris que Traviole et ont pensé qu'on s'était engagé à faire 300 albums, ils ont rien compris. L'album, c'est l'unité de temps dans Donjon. Donc il y a des albums qui se passent en moins 100, d'autres en plus 100. Mais ça, on n'a jamais eu le projet de combler les trous. Mais surtout, on n'a jamais eu le projet d'en faire autant. Au début, il devait y avoir juste un truc fait par Lewis. Après, j'ai voulu dessiner parce que j'étais jaloux, je voulais dessiner aussi. Après, Lewis a dit bah, plutôt d'en faire deux, on en fait trois. Et après, ça s'est emballé, on ne sait même pas ce qui nous est arrivé. Et hop, on a pris 20 ans. On est vieux.
15 ans. On est jeune.
Voilà.
Très bien. Et alors donc, le parcours sur Donjon, est-ce que vous retrouvez toujours cet univers-là avec le même plaisir qu'au début ? Le fait que ça vous échappe un peu comme ça, et est-ce que c'est toujours la même...
Quand on écrit, oui. Mais c'est symptomatique qu'on ait mis 10 ans à faire 34 albums et 5 ans à en faire 2. Ça veut dire que là, on était... on était parti un peu, on avait d'autres préoccupations, d'autres trucs, et Lewis a souhaité qu'on se rassemble pour mettre un point final à ce qui existait, par courtoisie et vis-à-vis des lecteurs et vis-à-vis des personnages, comme il dit, qui sont des personnes. Et donc, mais par contre, dès qu'on se met à écrire, le plaisir revient tout de suite. Et on se raconte un peu que la personne qui écrit, ce n'est ni Lewis ni moi, c'est une entité noire qui écrit pour nous.
Une entité blanche.
Ouais, enfin, une entité en tout cas. Parce que nos travaux respectifs ne ressemblent pas à Donjon. Ce qu'on fait chacun de nos côtés, ça n'a pas le même ton. Donc le fait de se mettre à deux, ça dynamise, ça crée de la comédie, et ça crée de la surprise. Ça fait qu'on dès qu'on l'écrit, on s'éclate.
Et justement, à niveau de la multiplicité des dessinateurs, parce que finalement, donc, vous écrivez plutôt le scénario, et il y a beaucoup de dessinateurs qui se sont un peu... agglomérer, c'est pas très joli au projet.
Agglutiner.
Ou agglutiner, voilà. Et donc, qui ont participé, donc comment ça s'est passé à ce niveau-là.
Vous ne voulez pas tout dessiner quand même.
C'est ça le truc.
C'est ça, c'est qu'il y a plus.
Il y a un moment, même si on était prolifique, on ne pouvait pas. Donc il fallait trouver des gens de qualité. Donc, Mazan lui a demandé dès le début s'il ne voulait pas faire Potron Minet, il nous a dit non. Donc on dit pas grave, on va faire une série où tu pourras faire le premier album. Donc il a fait le premier Monster. Alfred, il est venu nous voir en disant « je voudrais faire un donjon ». On dit « ok, d'accord, pas de problème ». Donc oui, donc, mais c'était pas voulu à la base, effectivement. C'est parce qu'on, d'un seul coup, Joanne plus moi, ça fait pas 1 plus 1 égale 2, ça fait 1 plus 1 égale autre chose. Et ça nous dépasse.
Et au niveau des dessins, justement, pour ces deux derniers volumes de Donjon Crépuscule, comment ça s'est décidé au niveau de... Vous aviez peut-être plusieurs dessinateurs finalement.
Au départ, c'était même vous qui deviez les dessiner.
Absolument, oui, c'était Joanne et moi qui. Enfin, Joanne voulait qu'on les dessine pour genre mettre le point final au truc de manière archi élégante. Je pense pas que ce soit pas le cas avec le travail d'Alfred et Mazan.
Oui, ça fallait le coup qu'ils viennent.
Ça fait ça.
Très content.
Non, vous voyez ce que je veux dire, j'ai fait une négation d'une négation.
Oui, oui.
Et comme finalement Joanne et moi n'avions pas le temps ni le courage de nous y remettre, on a passé le flambeau. Hein. Et en fait, on a écrit les albums en 4-5 jours. On a relu les trucs tout un petit peu avant, et puis après, voilà, en 4 jours, en parallèle, on écrivait les.
Moi j'ai mis un an pour le dessiner. Et Alfred un peu moins quand même, parce que t'as fait.
J'ai mis 3 mois et quelques.
Et comment ça s'est passé justement, parce que les deux albums ils se déroulent en parallèle, et comment vous avez fait pour régler, parce que finalement il y a des moments où ça se...
Ah, au niveau de l'écriture,
voilà. c'est deux choses différentes, le temps d'écriture que Joanne et Lewis ont ensemble et celui pendant lequel nous on va dessiner avec Mazan, ce sont vraiment deux temps complètement différents. Eux ils écrivent, ils sont côte à côte quand ils écrivent, donc cette étape là, ils la font déjà ensemble, ils peuvent déjà s'imbriquer les uns dans les autres et construire leur récit.
Donc au niveau de la structure, c'était fait en 4-5 jours. Après au niveau du graphisme, le point compliqué c'est que comme Mazan est plutôt un diesel, il a besoin de temps pour démarrer et après ça roule à fond. Et Alfred, lui, n'avait pas le temps, il était encore en train de faire son fauve d'or. oui, car nous travaillons qu'avec des stars. on savait que Mazan allait un petit peu la jouer à l'aveugle, il n'allait pas savoir ce qui allait se passer dans le bouquin d'Alfred et devoir dessiner des choses, des personnages, des objets dans les mains des personnages attachés à la ceinture, ceci, cela, que Alfred n'avait pas dessiné. Donc il fallait quand même qu'ils s'organisent entre eux un minimum. Mmh. Il y a eu un moment, effectivement, une embrouille avec le personnage qui avait une hache au lieu d'avoir une épée.
Oui, ben ça, c'est des cases à refaire, c'est tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé en fonction de l'album Fantôme que devait faire Alfred, qui se passe donc avant le mien. Et c'était
mais que
un
j'ai
petit
dessiné
peu...
après.
Voilà. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le
alors quand on lit les albums, il se passe pas vraiment avant ou après, il se passe au même moment. Et nous, par contre, pour les dessiner, c'est sur la même table. Et chacun va faire un petit morceau d'un album, parfois un strip, parfois deux pages, parfois, et ensuite on se passe. Donc en fait, ils ont été écrits en même temps l'un et l'autre sur la même table, ce qui nous permet de proposer pratiquement une lecture conjointe des deux livres, c'est, on peut clairement pas en comprendre un sans l'autre, et je pense qu'il faut les lire deux fois et dans les deux sens pour comprendre ce qui s'est passé. Dans le passé, on avait déjà fait deux albums qui se passaient en même temps, c'était le Blanquet et le Andreas, c'est ça ?
Et les trois albums en même temps.
Il y a Blanquet, Andreas et...
Johann Svar.
C'est vrai ? Mais ça se passait en même temps, mais ils étaient, comme on dit techniquement, ils étaient bitables. Là, ceux-là sont imbitables l'un sans l'autre. Il y a vraiment l'idée de pousser à son paroxysme le jeu avec les lecteurs qui sont. Parce que moi j'ai découvert, ça m'a fait ça. Mais à la deuxième lecture, j'ai trouvé que je comprenais.
Bah effectivement, il y a une structure qui est quand même assez. Enfin, l'un sans l'autre, on peut pas tout saisir, effectivement. Il y a un moment, on fait, mais c'est bizarre, il manque quelque chose. Et en prenant le suivant, on se dit, ah !
Il y a une autre contrainte aussi, c'est la contrainte du 46 pages, qui fait qu'on va pas s'étendre sur un événement dans lequel, dans d'autres BD, on aurait peut-être fait 10 pages. Il y a des personnages très importants, je vais pas spoiler, mais qui meurent. Et normalement, dans une BD, oh, attends, on arrête tout, lui il est mort, et là hop, ça avance. Et c'est prêt, on est presque obligé. Attends, lui il est mort. Ah ouais. Et ça j'aime bien.
Bah, il y avait plusieurs façons de faire cette fin du donjon, c'est-à-dire soit on faisait une structure linéaire avec les personnages qui vivent la moitié de l'aventure, après ça s'arrête. Et après, la deuxième moitié de l'aventure, c'est un deuxième album, et puis ça va jusqu'à la fin. Mm-hmm. Ou ce qu'on a fait en parallèle, où effectivement, il manque des bouts d'un album dans l'autre pour tout comprendre, même si quand même on saisit le principal, même si j'aime bien cette vision, en fait, à travers différents acteurs de différents personnages. Le fait qu'on soit avec Marvin Rouge et Zakoutou d'un côté, et avec Herbert et le Repoussière de l'autre, ça donne une dimension différente aussi à cette aventure-là pour chacun et par rapport au lecteur. C'est-à-dire que si on avait fait une seule lecture linéaire avec tous ensemble, on n'aurait pas eu le même poids et le même regard sur l'univers.
Et il me semble qu'il y a trois manières de finir Donjon qui se rencontrent là-dedans. La première, factuelle, c'est plus ou moins le destin de ce grand arc narratif. La deuxième, philosophique, parce qu'on raconte finalement cette histoire de l'échec de l'héroïsme face au temps, du passage de relais d'un personnage à l'autre, du fait que non seulement les personnages ont tous échoué, mais même le donjon va péricliter. Mais au-delà de ça, il y a une manière ludique de finir, qui est le principe de donjon, ça a toujours été de jouer avec nos lecteurs. Et là, on a essayé de pousser le jeu à son paroxysme jusqu'au moment où un personnage devient un autre et le lecteur comprend, quand il y a entre Zakoutou et Marvin Rouge, le moment où un personnage se bat dans deux dimensions, dans un monde existant, dans un monde inexistant, et d'une case à l'autre, le truc chef-d'œuvre quand il dessine ça, parce que c'est complètement incompréhensible, et en plus les deux histoires se passent en même temps dans deux albums. Donc ça, c'est pousser à son paroxysme le jeu de Donjon Dragon. Ok, puisqu'on termine, on va mettre tous les potards à fond et voir ce que ça donne, avec le risque de l'imbitabilité.
Assumé.
Et donc justement, enfin moi j'avais trouvé que, enfin ce qui faisait une des spécificités de Donjon, c'était le passage du temps. Et est-ce que le fait de jouer comme ça avec différentes périodes, c'est pas pour vous une manière de déjouer le passage du temps justement et de pouvoir revenir sur les personnages?
Ça crée une tristesse pas possible. Et pour nous, et pour les personnages, et pour les miroirs que ça peut faire entre nos vies et ce qu'on raconte dans Donjon. Et puis là, on met les choses noir sur blanc. Enfin, on explique, on dit voilà, tout le monde veut avoir ses objets du destin, on se bat pour ça jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils viennent de l'entité noire.
Et donc, au niveau des dessins, par contre, est-ce que c'est pas. Est-ce que ça a été difficile de vous approprier l'univers ou pas, ou c'est...
Moi, je m'étais déjà approprié. Avec le Donjon Monster, le premier. Non, là, c'était vraiment... Il fallait quand même que je relise tous les albums pour pouvoir me remettre vraiment dans l'univers, tout bien saisir. Surtout que moi, là, j'ai une pléthore de personnages différents que je n'avais pas, pas dessiné dans le Monster, et qui viennent de plusieurs époques différentes. Il y en a certaines de Potron Miné, même du tout premier, puisque moi, j'ai un personnage dessiné par Stanislas, que je connaissais en tant que lecteur, mais voilà, qu'il a fallu que je m'approprie aussi. Voilà, c'est vrai que ce côté documentation, au lieu d'aller chercher dans une bibliothèque comment est fait la cathédrale machin, ben là c'était chercher dans le donjon comment est l'armure de tel personnage ou tel autre, quoi, de balle.
Et à telle époque aussi, parce que selon.
Oui, voilà.
Quand tu dois dessiner Vaucanson, que ce soit à Zénith ou à Capitule, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, ouais. Donc c'était vraiment. Un travail, on va dire, de recherche à l'intérieur des 34 albums qui avaient plus l'album fantôme, le 35e.
C'est vrai que Alfred, lui, était avantagé par toi, puisque il y avait quasiment tout l'album fini quand il a commencé.
Voilà, donc c'est vrai que moi j'avais déjà décidé sur certains personnages, des armures ou des choses comme ça. que tu pouvais vite reprendre. Quoi.
J'ai pas l'impression que ça a été difficile. Et ce que j'expliquais l'autre jour, Lewis et Johan, ils ont inventé ensemble une espèce de grammaire graphique qui est à la fois très codifiée, en même temps qui est très ouverte et qui propose, qui est très libre, qui permet à qui veut pratiquement de pouvoir y mettre un peu de soi dedans et puis de s'approprier cet univers-là. C'est quelque chose d'assez généreux, du coup, à l'image de leur travail, des bouquins. Et du coup, moi, j'ai pris un plaisir énorme à faire ça, sans avoir le sentiment d'être en souffrance. D'autant que, voilà, au moment où Joanne m'avait passé le storyboard, son mot d'ordre, c'était essentiellement la contrainte qu'il me donnait, c'était ça, de prendre du plaisir. Donc ça, je l'ai bien gardé en tête. Et ça a été le cas. Voilà. C'était super comme réponse, je trouve.
Parfait. Et donc, justement, par rapport à l'univers en tant que tel, il y a eu aussi une partie un peu jeu de rôle. Est-ce qu'elle ne vient pas servir un peu de documentation aussi sur la série en même temps, en parallèle? Est-ce que ça a été décidé un peu dès le début? Est-ce que c'est venu naturellement dans la continuité? Selon ce que disait Alfred avec le fait que c'est un univers qui est un peu clé en main, finalement.
On a envie de faire des encyclopédies, oui. Il y a eu un moment, le jeu de rôle nous a servi un peu à ça, à dessiner une carte un tout petit peu, à un peu savoir combien de temps on met pour se déplacer d'un endroit à l'autre, tout ça. Et puis ce jeu de rôle, il a déclenché pas mal d'envies chouettes. Il y a des gens qui ont vraiment joué. Moi, je sais que là, je masterise des parties pour mon petit garçon qui a 10 ans et sa classe. Donc là, je me suis retrouvé complètement dépassé par des gosses de 10 ans qui vont. Et c'est un peu naturel parce que Donjon, c'est un grand hommage à l'univers des jeux de rôle. Et comme il y a de moins en moins de jeux de rôle conversationnels autour d'une table, c'était chouette d'en faire un. Quoi.
Au début, je voulais pas que ça s'appelle Donjon.
C'est vrai?
Tu te souviens?
Non.
Ah bon.
Je dis pas que c'est pas vrai, je dis que je me souviens pas.
Donjon. Ah, je trouvais que ça faisait trop Donjon et Dragon, ça faisait juste Donjon tout seul, ça me paraissait pas très bien. Par rapport au projet de base, qui était l'aventure d'Herbert qui se fait passer pour un barbare. Et après, maintenant que l'album est enfin que la série est terminée et qu'on voit de quoi il est question, bah, Donjon effectivement c'était le meilleur titre parce que le personnage principal, c'est le Donjon de sa naissance à sa mort sur 36 albums.
Et donc, est-ce que les fans, finalement, les échos que vous avez eus, parce que la série a eu quand même beaucoup de succès, et est-ce que les échos que vous avez eus par les fans ou des avis, etc., ça a pu influencer votre travail aussi, ou ça l'a nourri?
Non, on s'est toujours gardé de faire attention à ça.
Il y a quand même une fanbase qui rend joyeux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont influencé le contenu d'un album, mais quand on sait qu'il y a une fanbase, quand on sait qu'il y a un site comme le Mureur des Donjons, du Donjon, ça donne envie, voilà, ça met de bonne humeur.
Et ça cadre aussi, parce qu'on sait qu'ils nous suivent, et que si on fait des conneries, ils seront là derrière. Donc là-dessus, oui, ça nous aide. Mais pas pour nous donner des idées ou quoi que ce soit, les idées, on est assez grand pour ça.
C'est ça.
Et après, il faut payer les droits d'auteur aux autres, alors ça va pas.
Non, mais c'était compliqué quand des auteurs, même des gens talentueux, ont fait des BD pirates de donjons de manière très sympathique, et quand ils nous ont demandé à les publier, on a dit non. C'est pas parce qu'on n'est pas sympa, c'est parce que c'est que nous deux.
Bah, sur internet c'était ok, mais sur en papier c'est pareil.
Et ça a pu créer des incompréhensions.
Oui, c'est tout le. C'est un univers, c'est votre univers aussi.
On souhaite que ça parle d'une seule voix, qui est la voix qui apparaît quand Lewis et moi racontons une histoire.
Et
il faut qu'il y ait plein de dessinateurs parce que ça crée un collectif, mais la narration doit venir de
cette diamètre du jeu.
Voilà,
le récit.
Exactement. Et c'est marrant, c'est une discussion que j'avais avec ma petite fille parce que ses camarades d'elle, ils écrivent beaucoup de romans qui se passent dans le monde de Dofus parce qu'elle joue à Dofus. Et j'essaie de les forcer à s'inventer des mondes à eux pour pas se retrouver à faire des choses qui vont juste être des trucs de fans et qui peuvent pas avoir des. Mais ça la fait triper d'être dans le monde de ce qu'elle admire. Quoi.
Mais c'est tout le phénomène des fanfictions et de tout ce qui peut se faire avec l'internet justement.
Ouais.
Et est-ce que vous avez eu justement par rapport à Donjon l'envie de faire quelque chose de plus lié au niveau multimédia, je dirais, avec le web? Maintenant il y a les choses comme la réalité augmentée qui commencent un peu à se faire.
Non, c'est un métier différent. Nous, notre but c'était quand même de s'amuser en faisant des albums. Après, si d'autres personnes voulaient s'accaparer de ce machin-là pour en faire des jeux vidéo, des trucs en réalité augmentée ou des dessins animés ou je ne sais quoi, pourquoi pas. Mais on a le peu de fois en tout cas où on nous a demandé pour des adaptations télé ou cinéma, moi j'étais plutôt à dire non, tant que c'était pas terminé. Parce que je sentais que ça pourrait tout à fait nous empêcher d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc j'avais très peur de ça, d'autant qu'on n'avait pas écrit la fin, on ne savait pas jusqu'où ça allait, donc ça aurait pu nous pourrir tout l'univers. Mais en même temps, moi je pense que tout ce qui était à dire dans Donjon a été dit, même si il y avait des espaces manquants, et que le but du jeu, c'était pas de faire un jeu massivement multijoueur sur Internet avec ça, ni autre chose. S'il y a un jour, pourquoi pas, mais c'est pas nous qui allons nous investir là-dessus.
Et justement, donc là, le donjon arrive à une conclusion. Est-ce que vous gardez quand même un peu la possibilité d'y revenir de temps à autre dans cet univers, sous une forme ou une autre ?
Nous, l'idée, l'idée surtout instillée par Lewis, c'est d'amener un point final à ce qui existe par courtoisie vis-à-vis des lecteurs et vis-à-vis des personnages. Donc ça, c'est fait. Il y a un côté mission accomplie qui est vraiment très agréable. Si dans l'avenir, on travaille ensemble avec Lewis, ce qui est très 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 possible, sans doute qu'on aura envie de faire autre chose que Donjon, parce que ça fait 36 albums qu'on est ensemble dans l'Heroic Fantasy. Lui, il a commencé Ralphazam, moi j'ai commencé mes romans de l'ancien temps et les BD de l'ancien temps chez Gallimard. Peut-être qu'on va avoir envie de faire autre chose que de l'Heroic Fantasy, mais enfin, on peut aussi se réveiller un jour, avoir une idée pour un donjon, on peut aussi avoir d'autres gens qui nous amènent un super truc sur donjon, mais ce serait dommage, après avoir fait un ensemble qui est cohérent et qui a de la gueule, de dire juste on en fait un... Si un truc vient, pourquoi pas. Mais on est... Moi, je suis assez admiratif de l'envie qu'a Lewis de faire des œuvres qui ont une forme vu de l'extérieur. Là, Donjon, ça a une forme. Si on fait un autre truc sur Donjon un jour, ça a une forme aussi. Donc si Mignola insiste pour en faire un, bon, bah, il pourra le faire, c'est pas grave.
Même... Non, mais c'est clair que, par exemple, si on disait « Ah, mais alors... On a laissé l'époque Zénith en plan, ils n'ont pas récupéré le donjon, c'est Guillaume Delacroix qui a toujours le donjon, là j'ai une idée pour qu'il le récupère, on va faire un scénario, puis on va faire l'album, ça, je ne sais pas à quoi ça rimerait.
C'est pas un album, ça peut pas être un album.
Enfin même, enfin, que ce soit un album ou deux albums, mais c'est pas... Ouais, et après, j'ai l'impression que c'est fait quoi, par rapport à Donjon c'est fait. Qu'il y ait des trous, ça fait partie de la structure.
C'est construit pour, c'est construit pour, d'ailleurs il parle tout le temps Lewis du fait que les informaticiens adorent Donjon, mais... C'est pas un jeu vidéo, mais c'est un jeu donjon. À chaque moment, il est question de jouer. Donc c'est le fait qu'il y ait des trous, c'est consubstantiel de l'univers de donjon. Le fait que des gamins les aient sur l'étagère, les prennent au hasard, commencent leur lecture par le 10e album, etc. Ça fait partie des règles du jeu. Donc il est certain qu'un lecteur qui voudrait un univers où il n'y a pas de trous, faut respectueusement qu'il aille vers Torgal. Mais il est grand bien lui fasse. Mais parce que c'est bien en plus Torgal.
Si, les femmes vont Torgal.
Voilà, petit cochon en plus. Et voilà.
Ouais, c'est plein de facettes. Donjon, c'est plein de facettes différentes qui forment
absolument
une seule forme à la
absolument
fin.
La tension d'écriture qui est marrante, c'est qu'on exige de tout écrire au fil de la plume, donc c'est vraiment improvisé, mais on veut que ce soit absolument cohérent, parce que on a des lecteurs très jeunes, il y a des gamins de 10-12 ans qui viennent se plaindre parce que tel monstre là il pouvait faire ça mais là il peut pas tirer, et on essaye de pas éluder la question, on essaye vraiment de répondre, et des fois ils nous foutent dans la merde parce qu'évidemment sur 36 albums il y a quelques erreurs, je vais pas vous les dire, allez sur le site des Murmures, ils les ont notés. Mais nous on...
il y en a 17 pages,
c'est vrai. Merde. Ça c'est pas bon, mais n'empêche que on n'abdique pas, c'est-à-dire qu'on essaye, quand on dit ça c'est pas possible, on essaye quand même de trouver une réponse, même pour aller au maximum de la mauvaise foi, parce que des fois il faut une sacrée mauvaise foi pour répondre à certaines questions, mais on va jamais dire c'est pas grave. Si on nous dit ça c'est pas bon, non c'est pas grave.
Ça fait aussi partie du jeu quelque part.
Mais oui, faut que nous on y croit. Y a une... Et pour les dessinateurs, c'est la même chose. Ils s'approprient des personnages qui fatalement ont une destinée collective. Ils les font dans le style le plus lointain possible les uns des autres. Mais par contre, ils ont une exigence d'y croire. C'est-à-dire qu'il y a faut toujours qu'ils croient dans l'action qu'ils sont en train de décrire.
Très bien. Je pense qu'on a pas mal de choses sur l'univers de Donjon, et vos projets alors dorénavant respectifs, qu'est-ce que vous nous préparez
Mazan?
Moi je travaille avec des paléontologues, enfin, je travaille en paléontologie, donc je suis des missions paléontologiques de temps en temps à l'autre bout du monde, et je fais des dessins pour ces missions-là, de reconstitution ou de chronique du chantier. Donc, il est probable qu'un jour ou l'autre, je fasse un album de BD autour de mon travail. Sinon, j'ai d'autres choses aussi en tête, mais voilà, à mûrir.
Moi, je travaille à une expo, en ce moment, une grosse expo, d'images complètement inédites autour de l'Italie. Parce que j'ai grandi en partant d'Italie, je suis retourné y vivre plusieurs fois. Donc, du coup, je suis en train de préparer une exposition qui aura lieu au mois de mai à Bordeaux. Voilà, autour de mes Italies, de manière un peu affective.
Tu fais pas de BD ?
Pas tout de suite. Et en même temps, depuis un an, et encore pendant un an, je travaille avec David Chauvel à un livre avec Étienne Dao autour de la réalisation de son dernier disque. On suit depuis l'écriture, on suivra jusqu'à la fin de la tournée, en gros.
Étienne Dao, il n'existait pas.
Sinon, il y a Étienne Davodo aussi. C'est vrai parce que Étienne Dao et Étienne Davodo font des albums.
C'est vrai.
Mais ils chantent pas pareil tous les deux.
Et moi, je continue le rock fantasy avec Ralph Azam, un septième album en octobre.
Qui clôt
toute une époque en sept albums.
Les gens sont très inquiets de savoir s'il va mourir ou pas.
Ah, ils peuvent être inquiets.
Je suis allé sur les forums. Et voilà, et ben moi je viens de sortir Grand Clapier, qui est le premier tome d'une série de romans qui se passe dans le monde de l'ancien temps. Mm-hmm. Et c'est de l'heroic fantasy aussi, comme quoi décidément quand on a ce virus. Voilà.
C'est difficile de s'en décrocher.
C'est une vraie question. Est-ce que des mecs de 40 ou 50 ans ont encore affaire à raconter des barbares et des ogres et des princesses? Et on se met à avoir des préoccupations, j'allais dire, de personnes âgées, mais on continue à avoir ces personnages fictifs ou légendaires qui sont importants pour nous.
Mais je pense que c'est lié aussi à notre activité où on dessine très vite, on peut faire plein de choses à la fois, et au fait qu'on fasse de l'autobiographie. Parce que ça aussi, c'est un virus, quand on commence à refaire une autobiographie, ben on se nourrit de nous-mêmes, de notre quotidien, et c'est bon aussi à côté de s'évader dans
Absolument.
Un truc complètement fictif.
C'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à raconter une histoire fictive qui se passe dans le monde réel. Pour moi, le monde réel, c'est le monde de l'autobiographie. Mmh. Et le monde fictif, il faut qu'il y ait des chevaliers, des machins, des vampires. Ce qui explique que j'ai beaucoup de difficultés à financer mes films.
Du coup.
Eh bien, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans vos différents albums, projets.
Oui, avec Alfred, on fait encore des trucs ensemble. Toutes les semaines.
Dans Spirou Magazine, l'atelier Mastodonte, pour votre plus grand plaisir.
Exactement, et merci encore et à très bientôt.
Merci beaucoup. Merci.